R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute.
Antenne Kiasma.
Donc aura lieu, juste pour faire un petit point sur le projet, il s'agit donc de décrire des lieux à l'oral. Aura lieu. Et simplement, une des idées de départ qui est liée à la première que j'ai faite, qui s'appelait Conakry, qui est donc celle que je fais dimanche, c'était que je m'étais intéressé à l'idée de... C'est des lieux où j'ai été, c'est des lieux où j'ai fait des vidéos. Et à chaque fois, la question était comment je vais pouvoir parler de ce lieu sans entrer dans un récit imaginaire, c'est-à-dire sans construire des personnages de fiction et le rendre intéressant, mais autrement qu'en disant une fiction dans ce lieu, juste en essayant de raconter des choses qui, moi, m'intéresseraient de dire sur ce lieu, qui me sont arrivées, et de chercher un peu ce qu'il y avait là, sans en rajouter, finalement, en termes d'imagination ou d'histoire. Alors, à chaque fois, je parle en présence d'un écran. Je suis très content parce que l'écran est très beau, mais j'ai moins de place que d'habitude. Alors, du coup, il y a des moments où je vais sauter, et vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que c'est moche quand je passe doucement dans l'écran. Donc, en fait, je vais sauter par moment. Voilà. Et on va y aller. Alors, donc, ça se passe avec des cartes à chaque fois. Et la première carte... En fait, j'avais décidé de pas la distribuer aujourd'hui parce que c'est une carte qui, finalement, parle de Philippe Parreno et qui est un artiste contemporain. Et je trouve que ça parle déjà pas mal de Philippe Parreno dans la performance. Et puis, c'était une expo qui m'avait touché, que j'avais vue dans les années 2000, qui s'appelait Alien Seasons. Et en fait, cette expo était entièrement prise sur le rythme, on peut lancer la vidéo, d'un poulpe, enfin d'une sèche. Et c'était le rythme de la peau de la sèche. Et toute l'expo, il n'y avait pas grand-chose en fait dans cette exposition, mais cette sensation que c'était les pixels, qu'on appelle des chromatophores dans le cas de la peau de la sèche, qui guidaient le rythme de l'expo, etc. Et je m'étais baladé là-dedans, et j'étais vraiment assez touché, enfin en même temps un peu déçu, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, et touché. Et finalement, je me suis dit, je ne vais pas parler de ça. Et puis, en préparant l'Imoni pour la deuxième ou troisième fois, je suis tombé sur une phrase de Philippe Parreno que je vais vous lire. J'avais toujours ce rêve, quand j'étais enfant, que je pourrais ouvrir ma bouche et qu'une projection en sortirait, que mon imaginaire se transférerait aussi facilement en images disponibles pour les autres, ou peut-être que j'aurais une image sur ma peau comme le cuttlefish géant. Donc le cuttlefish, c'est la sèche. Et voilà, donc cette phrase, d'un coup, m'avait reconnecté vraiment à cette performance. Alors, vous pouvez les garder ou les faire passer, c'est un peu... Alors, l'Imoni, c'est la deuxième carte. L'Imoni, c'est le nom de l'endroit dont je parle. Alors en fait, il faut, pour aller à l'Imoni, il faut imaginer qu'on part d'Athènes, on traverse le canal de Corinthe, et puis on descend le Péloponnèse, qui est la partie sud de la Grèce. On descend plein sud, plein sud, plein sud, et on arrive, au bout d'un certain temps, il y a trois doigts comme ça qui font le bas du Péloponnèse, et un de ces doigts s'appelle le Magne. On rentre comme ça, on arrive dans le Magne, c'est montagneux, c'est méditerranéen, et on descend, et à un moment, il y a une très grande anse qui s'ouvre, et c'est l'anse de l'Imoni. Dans cette anse, il faut imaginer, il y a par exemple 2000 ans, un bateau grec ou romain, qui en pleine tempête, parce que la Méditerranée peut être calme, mais elle peut aussi être très violente, s'abrite, veut s'abriter dans l'anse de l'Imoni, donc il arrive par le sud, il rentre dans l'anse, comme ça, le bateau, et au moment où il rentre dans l'anse, il est pris, en fait, dans des récifs, il se heurte violemment aux récifs, et petit à petit, il coule et il sombre, comme ça, dans la baie de l'Imoni. Moi, je suis arrivé à l'Imoni, j'ai commencé une apnée et au bout de plusieurs apnées, je suis tombé sur un bateau, sur une épave qui était comme ça au fond de l'eau à l'Imoni. Alors il se trouve qu'on ne dit pas trouver une épave, on a gardé le terme latin inuenire qui voulait dire trouver. Et donc en fait, on invente l'épave, c'est-à-dire que celui qui trouve une épave est inventeur d'épave. Après, il peut la répertorier, etc. Mais on est inventeur d'épave quand on la découvre en premier. Alors, en l'occurrence, ce n'est sans doute pas moi qui l'ai découvert en premier dans le cas de celle que j'ai vue en apnée. Alors la carte suivante représente un oursin. Alors elle représente un oursin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais une apnée à l'hymenie, la première apnée, je commence à descendre comme ça, les rochers sont blancs, et sur le sol, il y a deux types d'oursins. Il y a des oursins de roche, qui, vous voyez, c'est l'oursin qu'on connaît le plus, c'est un oursin piquant, rond, avec des piquants partout. Et il y a l'oursin des sables, qui est un oursin beaucoup plus discret, qui vit dans le sable et qu'on ne voit jamais, parce qu'en fait, il est dans le sable. Pour les voir dans le sable, il faut aller plus profond, là où les roches s'arrêtent, où le sable commence. Alors en fait, il se trouve qu'on ne dit pas une coquille d'oursin. Pour l'oursin, on dit une teste, un test d'oursin. Parce qu'en fait, c'est le même mot que la petite boîte dure, que la coquille. Et l'origine du nom de cette chose-là, c'est la même origine que la tête, c'est la testa. Et cette chose qui reste de l'oursin quand il n'y a plus les piquants ni la chair, c'est le test. Et donc, c'est des tests d'oursins et des tas de petites têtes qu'on voit. Alors, il y a des oursins vivants avec leurs piquants. Et puis, il y a comme ça ces petits crânes, parce que c'est l'origine, la même origine, ces petits crânes au fond de l'eau répandus, qui sont roses, verts et rouges parfois quand on est dans la roche, et qui sont blancs et beaucoup plus fragiles quand on les trouve dans le sable. C'est des tests encore plus fragiles. Alors là, j'avais envie d'une œuvre. J'avais envie d'imaginer une œuvre qui s'appellerait « Il n'y aura qu'un seul test ». Alors, il faut imaginer, on serait à Kiasma, par exemple, et on aurait répandu sur 3, 4 mètres tout un sol. Alors, on aurait fait des apnées pendant tout un été. Et puis, on aurait répandu sur le sol des oursins, des tests d'oursins, des petites blanches, des petites roses, rouges. Alors, ça va de cette taille-là à des minuscules. Et on aurait fait 3 mètres par 3 de petites têtes d'oursins, comme ça. Et puis on aurait suspendu au milieu, à un endroit inaccessible, comme ça, très légèrement, au bout d'un fil, un petit oursin avec les piquants en or. Et en fait, cette œuvre qui s'appelle « Il n'y aura qu'un seul test », il faudrait que les visiteurs soient avertis qu'ils ont le droit de piétiner. Celui qui osera peut piétiner les têtes et aller cueillir le petit oursin d'or. Simplement, évidemment, une fois qu'il a fait ça, l'œuvre est détruite, les visiteurs suivants peuvent aussi piétiner les petites têtes, et puis progressivement, ce qui se retrouve au sol est une espèce de plage de matière concassée. Évidemment, ce qu'il faut penser, c'est que ce petit oursin en or que la personne emmène a très exactement la forme du virus le plus célèbre de l'histoire humaine, et que finalement, ce qu'il emmène avec lui, c'est comme un petit remords, quoi. Alors, j'ai laissé mes cartes de l'autre côté. Alors, la carte suivante montre des poumons sur fond bleu. Parce qu'évidemment, pour découvrir une épave, pour l'inventer, il faut faire une apnée. Alors, sur l'apnée, moi, je ne suis pas extrêmement fort, je suis un apnéiste moyen. Je tiens, cet été, j'ai fait un test dans un étang, je tiens 1 minute 40, ce qui est un score moyen. Au moment où je préparais, c'est-à-dire il y a 2 ans, au moment où je préparais cette aura lieu, il y a une très célèbre apnéiste qui est décédée qui s'appelait Natalia Molchanova. Et Natalia Molchanova est décédée non pas en faisant des trucs incroyables à des profondeurs démentes, elle était en promenade dans une apnée à 30 mètres et on n'a jamais retrouvé son corps. Et alors je me disais, qu'est-ce que serait une minute de silence pour une apnéiste? Et ça serait une minute d'apnée. Donc je vais faire une minute d'apnée pour qu'on pense à Natalia Molchanova. Il faut savoir qu'elle tenait 9 minutes et 2 secondes en apnée statique. Vous pouvez participer ou pas, hein, c'est pas du tout... Voilà, c'est juste comme ça un moment pour voir ce que ça fait de retenir et de se plonger un peu plus profond dans l'apnée. Alors je me tiens le nez parce que sinon, en fait, hors de l'eau, on n'arrive pas à savoir si on respire ou pas. Je ne sais pas si ça fait mythe. Bon. La suivante s'appelle Oradi. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur Oralieu, je me suis dit ça serait bien que ce soit évolutif et que je puisse introduire finalement des choses que les gens m'auraient dit. C'est quelque chose qu'on m'aura dit. Donc j'ai introduit des Oradi. Alors il y a quelqu'un, la deuxième fois que j'ai fait Oralieu Limoni, qui m'a dit « C'est marrant, on a l'impression que le contenu de ta tête se répand en nous. » Alors à l'époque, ça m'avait un peu marqué parce que je trouvais ça fort. C'était une espèce de sensation assez forte comme ça, que quelque chose se vidait. Et en même temps, ça, je trouvais ça assez beau parce que dans une question sur comment décrire un lieu, c'est toute la question finalement de l'entièreté de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent qui rentre finalement dans un cerveau et qui après se re-répand évidemment d'une autre façon. En travaillant sur Limoni, j'ai lu un livre de Georges Duberman qui s'appelle « Être crâne ». Et il y a un plasticien qui s'appelle Pennon et qui a essayé de dessiner par différentes techniques l'intérieur du crâne et de rendre compte comme ça de ce qu'était l'intérieur du crâne. Et je trouvais finalement que cette sensation assez comme ça qu'on m'avait dit au sortir de la performance, ton crâne se répand en nous, l'intérieur de ton crâne se répand en nous, c'était aussi la question de sans arrêt comment un paysage rentre et sort, etc. Et il y a une phrase qui est dans le livre de Pennon, alors j'ai donné la carte, donc je la cite de mémoire, mais c'est que l'espace est une dérivation de l'espace mental, finalement. C'est-à-dire que ce qui nous parvient n'est qu'une version de la manière dont notre cerveau est configuré. Donc les Oralieux, c'est aussi une des questions qui les traverse. La carte suivante représente des Posidonies. Alors les Posidonies, c'est les algues les plus courantes. Il faut imaginer, si on était Natalia Molchanova, ça serait la seule et immense apnée. On serait arrivé au bord de l'eau. On aurait longé des rochers avec plein de petites têtes rouges et vertes. On aurait ensuite parcouru une plage de sable où il y aurait eu des petites têtes blanches. Et là, on arrive à des herbiers de Posidonies qui sont des algues assez raides. Ce n'est pas spécialement beau. Et qui est l'herbe typique de la Méditerranée. Alors en fait, il faut savoir que la Méditerranée est un monde clos, donc c'est un endroit comme ça complètement fermé. Avant, on ne pouvait rentrer en Méditerranée de l'extérieur que par le détroit de Gibraltar. Donc c'était une mer qui avait finalement peu d'échanges avec les autres mers. À partir d'un moment, on a creusé le canal de Suez, et à partir de ce moment-là, de nouveaux poissons et de nouvelles espèces sont rentrés en Méditerranée. Ils se sont introduits par le canal de Suez, et par exemple, on trouve maintenant en Méditerranée des poissons lapins à queue tronquée. Alors le poisson lapin à queue tronquée est assez vilain comme ça, et en fait on le classe parmi les immigrants lessepsiens. C'est-à-dire que la Méditerranée est désormais polluée, envahie par les immigrants lessepsiens qui passent par le canal de Suez. Donc il y a aussi des espèces comme ça indésirables. En réalité, la plus indésirable plante de Méditerranée s'appelle Caolerpa taxifolia. Et elle n'est pas rentrée du tout par le canal de Suez, c'est pas un immigrant lessepsien. C'est une algue beaucoup plus jolie que les Posidonies, assez comme ça, avec des jolis embranchements, presque fluo, qu'on met dans les aquariums, et en fait qui était présente au musée océanographique de Monaco. Le musée océanographique de Monaco était longtemps dirigé par Jacques-Yves Cousteau, dont on reparlera. Et donc cette algue s'est échappée des aquariums et s'est répandue en Méditerranée. Et ça a été une espèce invasive, extrêmement invasive, puisqu'elle a menacé les herbiers à Posidonies et qu'il y a eu un moment une très grande peur que ça extermine de nombreuses espèces, parce que les poissons ne peuvent pas vivre dans la Caolerpa taxifolia. Ils peuvent vivre dans les champs de Posidonies, mais pas dans Caolerpa. Et elle gagnait comme ça. Vous avez dû en entendre parler beaucoup dans les années 90-2000. Et puis en fait, depuis un peu moins de 10 ans, Caolerpa taxifolia disparaît d'elle-même. Alors ça fait partie des choses un peu mystérieuses. Dans cette mer fermée, qui peut-être ne lui était pas adaptée, peut-être que c'était une seule plante qui était à l'origine de tout et que du coup il n'y avait pas assez de croisements génétiques, on ne trouve quasiment plus de Caolerpa taxifolia en Méditerranée et les Posidonies reprennent du terrain. La carte suivante, c'est un dessin de BD. Et on voit deux plongeurs qui ramassent une amphore. Donc ça, c'est simplement une image toute bête, c'est que si je suis Natalia Molchanova et que je continue mon apnée, à un moment, après avoir croisé le sable, les petites têtes, l'herbier à Posidonie, et c'est ce qui m'est vraiment arrivé, mais moi, au bout d'une quinzaine d'apnées, on arrive à un endroit, et là, je suis tombé sur des amphores à 7-8 mètres de profondeur, de vrais amphores, comme dans les films, et j'étais complètement étonné. 8-9 mètres, c'est un peu dur pour moi, mais je peux y descendre. Je suis descendu plusieurs fois, et en fait, je venais d'inventer cette épave, vraiment. Et il y avait alors tout autour, c'était la forme du bateau, mais il n'y avait plus le bateau. C'était vraiment comme si toutes les amphores avaient gardé la forme de leur contenant, qui était le bateau, qui avait disparu, et que soudées entre elles, elles avaient représenté le bateau qui avait disparu. C'était très très beau, je faisais des apnées, je m'épuisais à descendre dessus, et il y avait juste un bateau fantôme entièrement représenté par des amphores. Et alors j'étais très étonné que ces amphores ne remontent pas à la surface, que quelqu'un n'ait pas fait un travail archéologique pour les sortir, etc. Et je ne savais pas à ce moment-là que les amphores étaient quelque chose d'extrêmement courant, qu'on ne remontait pas à tout moment. Et j'ai rêvé d'une œuvre qui aurait consisté à pousser les amphores vers la surface. Et je me disais, on pourrait attacher à chaque amphore un fil de 2-3 mètres, par exemple. 3 mètres, tous les fils feraient 3 mètres. Et chaque amphore, on aurait attaché un bag-in-box. Vous voyez le cubiténaire, le sac de vin. Quand vous enlevez la partie en carton, vous buvez le vin. Et après, vous soufflez dans le sac. Et ça fait une très belle bulle plastique. Et on aurait pu attacher par le petit robinet toutes les amphores, comme ça, anciennes, elles auraient été tirées vers la surface par des cubiténaires en plastique, et on aurait comme ça une œuvre pour apnéiste, invisible de la surface. Et évidemment, cette œuvre, en fait, est là aussi une conversation, une réponse à une œuvre de Philippe Parreno qui s'appelle Speech Bubbles. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre de Parreno où des bulles de BD gonflables sont au plafond et font parler. Simplement, là, c'est une œuvre qui serait tue, parce qu'elle serait silencieuse, sous l'eau, et visible seulement en apnée. Et du coup, elle s'appellerait Silent Bubbles. Voilà, comme ça, juste la forme de l'épave. Et alors après, j'ai appris que la première personne qui avait fait des fouilles archéologiques très poussées, enfin parmi les premiers, c'était Jacques-Yves Cousteau, sur une épave qui est au large de Marseille, assez célèbre, et qui s'appelle le Grand Congloué. Alors là, ce qu'on voit, c'est un poulpe. Parce qu'évidemment, là, on a parlé beaucoup de contenants, hein, le bateau qui était le contenant des amphores, les amphores qui étaient le contenu et qui représentaient le contenant. Il faut imaginer que le poulpe est un obsédé du contenant. Il cherche tout le temps un contenant. C'est un mollusque céphalopode. Donc, en fait, les mollusques céphalopodes, c'est... Alors, les mollusques, c'est des escargots. Hein. Mollusques céphalopodes, c'est des sèches, des poulpes et des calamars. Et le poulpe, lui, n'a même pas l'os de sèche, n'a même pas le cartilage du calamar. Il a zéro forme. Et en fait, il cherche en permanence un endroit où trouver sa forme. Et donc, le poulpe est particulièrement heureux dans les amphores, c'est-à-dire qu'il se loge dans l'amphore et il y est extrêmement bien. Alors, vous pouvez avoir un bateau rempli d'amphores, il y aura un seul poulpe, parce que par contre, il n'y a pas de voisinage. Ils sont très combatifs. Donc, en fait, sur ce bateau-là, il y avait un poulpe. Il n'y avait pas 50 poulpes, un par amphore, etc. Donc voilà, ça c'est pour le poulpe comme contenu. Alors, la carte qu'on voit ici, il y a plusieurs choses. C'est le commandant Cousteau dans une BD avec son bonnet rouge et une bulle de BD qu'on a vidée. Au moment des fouilles du Grand Congloué, je ne sais pas exactement comment on dit, c'est juste après les années 50, on commence à fouiller ce bateau très célèbre. Et pendant les fouilles du Grand Congloué, il y a eu des morts. C'est-à-dire que c'était à l'époque très courant, c'était des techniques très peu abouties, et des plongeurs sont morts. Tout à l'heure, il y avait la minute d'apnée pour Natalia Molchanova. Il faut savoir qu'à l'époque, de nombreuses personnes décédaient, et que le bonnet rouge de Cousteau, en fait, date de cette époque, et c'est un hommage aux personnes mortes sous la mer. Donc en fait, le premier bonnet rouge vient de là, c'est Jacques-Yves Cousteau, et c'est en hommage à un mort très précis sur cette épave du Grand Congloué. Alors par ailleurs, je lui ai mis une bulle vide. Alors la bulle de BD, ça s'appelle un phylactère. Cousteau a fait un film qui s'appelle Le Monde du Silence. Et je me disais, finalement, Le Monde du Silence, c'est pas le monde du silence. Si vous faites de l'apnée ou de la plongée, c'est très bruyant. La mer est très bonne conductrice du son. Donc en fait, on entend très bien. Simplement, dans Le Monde du Silence, l'homme se tait. C'est simplement ça, la différence fondamentale, c'est que sous l'eau, avec les appareils, maintenant, il y a quelques techniques qui permettent de parler sous l'eau, mais a priori, c'est le monde où l'homme se tait. Et voilà. Et alors, sur le Grand Conglou, en fait, ça a pris énormément de temps. Cousteau a travaillé, etc. Et ils ont découvert une chose, c'est qu'il y avait deux grands conglous. Les amphores qu'on emmenait en général d'un pays à l'autre ne se réutilisaient pas. Il n'y avait pas de consigne. Donc, quand on avait utilisé une amphore, on la détruisait. Ce qui fait qu'à Rome, vous pouvez avoir une petite colline qui n'est en fait que des dépôts d'amphores successifs qu'on a écrasés, entassés, etc. Parce que ça ne se réutilisait pas. Ce qui fait que c'est extrêmement facile de dater un bateau échoué parce qu'on connaît les amphores. Donc vous avez tel type d'amphore, vous savez très bien ce que vous avez trouvé. Sur le Grand Congloué, ils ont mis 30 ans à se prendre la tête parce que les amphores qu'ils trouvaient sur cette épave ne convenaient pas. Ce n'était pas logique. Il y avait deux types d'amphores qui, a priori, n'avaient pas de sens d'être ensemble. Et en fait, après de longues recherches, ils ont découvert, on est à peu près sûr aujourd'hui, qu'en fait, deux bateaux sont le Grand Congloué. C'est-à-dire qu'un bateau a coulé au 1er siècle après Jésus-Christ et un deuxième bateau a coulé au 2e siècle après Jésus-Christ exactement sur ce premier bateau et que c'est ce qui a donné du fil à retordre aux premiers archéologues parce qu'ils étaient en train de fouiller deux bateaux superposés en fait. Alors sur le monde du silence, bon, y a du Cousteau qui sort en ce moment, ça vaut le coup de regarder le film Le monde du silence de Cousteau. C'est avant l'écologie, c'est pas du tout silencieux. Par exemple, à un moment, Cousteau veut compter les poissons d'un récif, donc il le dynamite pour faire remonter tous les poissons à la surface. Et il montre ça dans le film avec un naturel tout à fait déconcertant, mais c'est l'époque. Après, et ils ont eu la Palme d'Or, puisque c'était filmé avec Louis Malle, en 1954, je crois. Alors là, ce qu'on voit sur cette carte, c'est le théâtre d'Épidaure. Quand on descend depuis le canal de Corinthe vers le Magne, on peut, en faisant un petit détour, s'arrêter au théâtre d'Épidaure. Et ce qui est formidable et très impressionnant quand on est dans ce théâtre, on est dans des grandes marches en pierre comme ça, et c'est que ce qu'il y a à voir en premier, c'est la campagne et c'est la nature. C'est-à-dire que finalement, ce théâtre antique, magnifique, donne d'abord sur la nature et ouvre comme ça sur un paysage absolument où le regard se perd sur des forêts, etc. En bas, il y a la Seine, mais tout l'ouverture est un paysage. Et alors moi, je travaille dans le théâtre à l'origine. Alors ça, c'est une image de bulle. En fait, par contre, je me rendais compte que finalement, dans le théâtre tragique et dans le théâtre de toutes les époques, il y avait eu des filiations. C'est des histoires de famille, c'est des histoires qui descendent comme ça. Et que petit à petit, dans notre siècle, on s'est mis à aimer les histoires qui marchent plus par plateau, qui marchent par bulles les unes à côté des autres, qui marchent par système, qui communiquent les uns à côté des autres, et non pas en système de filiation. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était cette notion de comment des petites formes closes, avec un contenu informatif, avec peut-être une membrane, arrivent à communiquer l'une à côté de l'autre des informations. Et mon mémoire de maîtrise, qui il y a maintenant 20 ans, s'appelait « Jusqu'à la cellule » et parlait de ce type de pièce de théâtre. Et je n'avais pas fait le rapport, quand je me suis lancé dans Aura lieu, de cette question de comment une information circule d'une petite bulle à une autre petite bulle à une autre petite bulle. Et en fait, c'est le logo de Aura lieu Limeny, ces deux petites bulles emmêlées. Alors d'habitude, je n'utilise pas cette carte, mais d'un coup, je me suis souvenu de mes premiers émois théâtraux, et on travaillait sur les paravents de Jean Genet, et le metteur en scène avec qui je travaillais, Frédéric Fisbach, à un moment, on était en train de lire le texte, il y avait des didascalies, et on s'est dit, on avait une question un peu, bon, pas capitale, mais quand même un peu touchante, c'était qu'on s'est rendu compte que Jean Genet écrivait dans les didascalies, qui sont les indications pour les acteurs ou le metteur en scène, parfois « silence », et parfois un temps. Et on s'était amusé à se demander ce que ça serait pour l'acteur de faire une différence entre un silence et un temps. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'on a essayé de superposer une baleine avec un bateau. En fait, je vous ai dit que le Grand Congloué était deux grands Congloués, qu'un bateau s'était déposé sur un bateau. Et moi, un rêve comme ça d'œuvre totale, ça aurait été qu'une baleine se dépose sur un bateau. Il faut savoir que les vaisseaux, on dit des vaisseaux pour des navires, la baleine, c'est un vaisseau humain, puisque Jonas, par exemple, circule en baleine. Et je me disais, finalement, ça serait un vaisseau qui se déposerait sur un autre vaisseau. Vaisseau, ça vient de vasculum. Et en fait, c'est encore une petite tête. C'est le sarcophage. C'est la petite boîte. Et en fait, ça donne la vaisselle et ça donne les vaisseaux. Et donc, finalement, c'est tous ces moyens de transport qui se superposeraient comme ça. Et je me disais, ça serait très beau qu'une baleine, à un endroit, sans qu'on le sache, aille mourir sur une ancienne carcasse de bateau ou qu'une ancienne carcasse de bateau aille mourir sur une baleine. Il faut savoir qu'à 1500 mètres de fond, il n'y a pas de lumière et que une des grandes sources de vie dans les très grandes profondeurs est due aux baleines qui meurent. C'est-à-dire qu'en fait, une baleine qui meurt va couler, on va dire, à 3000 mètres de fond. Il n'y a pas de lumière, donc on ne peut pas être dans un système chimique habituel. Et en fait, une baleine de 30 mètres, c'est 100 ans de système de vie. C'est-à-dire que pendant 100 ans, il va y avoir à l'endroit de la mort de cette baleine une vie qui va se développer. D'abord, très rapidement, les animaux mangent la chair, mais les os, etc., vont être mangés par chimiosynthèse, qui est une technique de la nature pour manger sans lumière et pour vivre sans lumière. Donc il y a une vie extrêmement dense qui se développe pendant des centaines d'années et qui apparaît sur les cadavres de baleines en très grande profondeur. Il y a un bateau qui a coulé dans le golfe de Gascogne dans les années 90-2000 qui contenait énormément de cuivre. D'habitude, quand des bateaux coulent à 2000 mètres de fond, on ne va pas les chercher. Comme celui-là était très, très bien chargé et qu'on voulait récupérer son contenu, on a été le chercher. Et on a découvert sur ce bateau, très spécifique par sa cargaison, exactement la même chimiosynthèse qui a lieu sur les cadavres de baleines, c'est-à-dire qu'un système, un biotope s'était développé par 2000 mètres de fond autour de ce bateau. Voilà, donc il faut imaginer, pour moi, ça serait l'œuvre la plus belle, ça serait les vertèbres gigantesques, la tête gigantesque de la baleine mélangée à la carcasse de bateau, et peut-être des bactéries comme ça qui n'ont jamais connu la lumière et qui mangent à la fois une baleine et un bateau. Il y a des nouveaux venus. Alors là, c'est encore. Alors là, pour le coup, c'est l'œuvre de Parreno. C'est les fameux speech bubbles qui sont collés au plafond. C'était comme un remords, un regret de ne pas avoir fait émerger complètement le bateau depuis le fond de l'anse de Limoni. Et du coup, je me disais, bon, bah, on avait tout à l'heure des poches comme ça de vin qui répondaient aux amphores ancestrales. On pourrait maintenant faire décoller au-dessus de la surface. Il suffit de rajouter du fil. On met par exemple 10 mètres de fil et on aurait comme ça, juste au-dessus de la surface, la forme du bateau tel qu'il est déposé au fond, mais représenté au-dessus de la surface, comme ça, une œuvre pour tout le monde qu'on pourrait voir depuis le bord et qui serait une série de ballons en suspension au-dessus de la mer. Et ça s'appellerait par exemple Relief Bubbles, parce que relief, c'est à la fois ce qu'il reste et le relief, et on aurait le relief de ce bateau en amphore, représenté par des bulles flottantes à la surface. Alors ici, c'est une photo prise à Limoni. C'est un tout petit oursin qui grandit dans la tête d'un vieil oursin. C'est toujours cette question de qu'est-ce qui grandit à l'intérieur de quoi, comment des cercles fonctionnent en se mélangeant. Et c'est aussi la question de... On parlait des baleines, de la vie qui se développe à partir de la mort. C'est finalement aussi une question dont je vais parler dans d'autres oraux. C'est qu'est-ce que c'est que, comment l'homme peu à peu a intégré des choses extérieures à lui? Qu'est-ce que c'est qu'être contaminé? Et par exemple, on sait aujourd'hui que les mitochondries qui sont dans nos cellules étaient au départ de l'ADN qui n'était pas le nôtre et qui s'est mélangé. Et on sait que 8% de notre génome est constitué d'anciens virus. Donc finalement, ce petit virus à l'intérieur de l'autre, c'est aussi une partie de ce qui nous traverse. Là, c'est une carte à peu près illisible à regarder. C'est un graphisme de M&M qui ont travaillé avec Philippe Parreno et d'autres artistes. Et alors eux, ils ont acheté, vous avez peut-être vu ça, une ancienne, ils ont acheté un ancien manga qui ne servait pas, un personnage de manga qui avait été dessiné, mais qui n'avait pas d'histoire. Donc encore cette histoire de quelque chose qui n'est pas raconté, où il n'y avait pas d'imaginaire, mais il y avait une enveloppe vide. Et évidemment, à partir de ça, ils ont aussi réintroduit le dessin animé qui s'appelle Ghost in the Shell, qui est finalement, si on traduit mal, le fantôme dans le coquillage, mais qui est aussi l'âme dans la carapace, qui est toute cette question de comment des choses circulent à l'intérieur d'une boîte, comment ça circule. Et là, je me suis rendu compte qu'on était dans un paysage très, très marin, très, très solaire, mais que finalement, la question de ce qu'on peut projeter depuis l'intérieur de sa bouche et de ce qui nous traverse, et du vent et de l'eau qui peut glisser dans les petits crânes, c'était, dans sa version bleue et solaire, une question qui était purement théâtrale et qui était très, très shakespearienne. On pourrait, par exemple, faire un truc comme ça, et puis d'un coup, on aurait une image très, très théâtrale de regarder ce qu'il y a dans la boîte. La dernière carte, c'est le poulpe en négatif. En fait, tout à l'heure, il y avait le poulpe, je vous disais que c'était un contenu. Le poulpe est aussi un contenant puisqu'il contient de l'encre. Et j'ai fait un rêve quand je travaillais sur l'Imony. J'ai fait un rêve où la mer avait disparu. Donc il n'y avait plus que le sol. Le sol était très sec, très blanc. Tout était recouvert d'une croûte de sel comme ça. Et on voyait les algues par moments par transparence, mais globalement c'était blanc, c'était salé, il n'y avait plus rien. Et à un moment donné, il y avait un poulpe. Et le poulpe, dans des espèces de contractions de douleur, se traînait comme ça sur le sol, blanc. Et il avançait en se contractant. Et derrière lui, il laissait une traînée noire comme ça. Et évidemment, c'est extrêmement douloureux. C'est comme de la chair à nu, un poulpe. Il avançait de plus en plus dans ce paysage en laissant une ligne noire comme ça. Il dessinait presque sur la mer disparue. Et puis à un moment, il trouvait une espèce de flaque. Il se jetait dedans et puis il s'aspergeait d'encre comme si ça pouvait le sauver, etc. Et ça s'arrêtait là. Et du coup, je me posais cette question et je me disais, est-ce que finalement, ça, c'est un peu un fantasme d'écrivain de se lubrifier avec son encre ? Merci.